Chapitre 26. En montant derrière Roger l'escalier de la tour, Corisandre n'avait qu'une seule pensée qui était une espérance. « Pourvu qu'il y ait des visiteurs sur la plateforme !» se disait-elle. Et tout en montant, elle écoutait. Mais sur les pierres de grès rouge qui forment les marches de l'escalier, on n'entendait point d'autres pas que les leurs. De temps en temps seulement, quand ils passaient auprès d'un jour ouvert dans l'épaisse muraille de la tour, leur arrivait le croassement de quelques corneilles qui revenaient à son nid ou qui s'envolaient. « Il semble que nous soyons seuls dans cette église, » dit Roger en se retournant vers elle. Ils continuèrent de monter, allant lentement. Cette tour du Münster de Fribourg, qui est une des merveilles de l'architecture gothique, est aussi large à sa base que la nef elle-même, alors elle est quadrangulaire. Mais en s'élevant, cette forme se rétrécit et change pour devenir octogone, puis enfin elle devient une pyramide qui se termine par une flèche hardie que couronne une croix. C'est jusqu'au point où commence la flèche que montent les visiteurs. Là se trouve une plateforme que borde un balcon, d'où la vue embrasse l'ensemble du monument et un immense panorama. À ses pieds, on a la cathédrale avec sa toiture à la pente rapide, ses arcs-boutants, ses statues, ses gouttières, ses colonnes, ses clochers aux dentelures byzantines, puis par-dessus les toits et les cheminées de la ville, d'un côté la forêt noire, dont les pentes sombres s'élèvent rapidement, et de l'autre la plaine du Rhin, que ferme au loin la ligne bleuâtre des Vosges. Ils restèrent longtemps sur cette plateforme, allant successivement d'un côté à l'autre, de façon à embrasser entièrement la vue qui se déroulait devant eux. Chaque fois que Corisandre se penchait au-dessus du balcon pour regarder la place, elle voyait sa mère, immobile dans la calèche, toute petite et n'agitant aucun mouchoir. Personne ne viendrait donc la tirer de son embarras, qui, avec le temps, allait en s'accroissant. La journée était radieuse et chaude, mais à cette hauteur, la brise qui soufflait à travers les arceaux rafraîchissait l'air. Cependant, elle étouffait, le cœur serré par l'émotion. Pour Roger, il paraissait pleinement heureux et, à chaque instant, il étendait la main vers l'horizon pour lui montrer un point qu'il lui désignait, jusqu'à ce qu'elle l'eût aperçu elle-même. « Ne trouvez-vous pas, disait-il, que c'est une douce joie, pleine de poésie et de charme, que de se perdre ainsi ensemble dans ces profondeurs sans bornes? Cela ne vous rappelle-t-il pas Eberstein ?» Ce souvenir ainsi évoqué la fit frémir de la tête aux pieds. Elle se sentit prise par une molle langueur. « Si vous vouliez, dit-elle, nous pourrions redescendre. Déjà ? Ma mère n'a pas une aussi belle vue que nous dans sa voiture. » Comme ils arrivaient à l'escalier, il se retourna. « Voulez-vous que nous jetions un dernier regard sur ce panorama, dit-il, pour bien le graver en nous et l'emporter ? C'est là un des charmes de ces belles vues, de faire un cadre à nos souvenirs. » Une dernière fois, ils firent le tour de la plateforme. Mais Corisandre était trop ému, trop profondément troublé pour rien voir. Personne n'était venu et elle n'avait rien dit. Ils revinrent à l'escalier qui, à cet endroit, est très étroit et tourne dans une assez brusque révolution. Roger descendit le premier et Corisandre le suivit, indifférente, insensible à ce qui se passait autour d'elle, marchant sans regarder à ses pieds, tout à la pensée de la séparation que sa mère allait certainement lui imposer, n'étant pas femme à revenir sur une chose qu'elle avait dite. Roger ne s'était point prononcé, il fallait quitter Bade. Quand, comment le reverrait-elle? Tout à coup, elle glissa sur une marche polie et elle se sentit tomber en avant. Justement, en face d'elle, une petite fenêtre longue s'ouvrait sur le vide. Instinctivement, elle crut qu'elle allait être précipitée par cette fenêtre et, étendant les deux mains, elle laissa échapper un cri. « Roger !» Le bruit de la glissade lui avait déjà fait tourner la tête. Vivement, il lui tendit les bras et la reçut sur sa poitrine. Comme il avait le dos appuyé contre la muraille, il ne fut pas renversé. Elle était tombée la tête en avant et elle restait sur l'épaule de Roger, à demi cachée dans son cou. Doucement, il se pencha vers elle, et, la serrant dans ses deux bras, il lui posa les lèvres sur ses lèvres. Alors, à son baiser, elle répondit par un baiser. Longtemps, ils restèrent unis dans cette étreinte passionnée. Puis, faiblement, elle murmura quelques paroles. « Vous m'aimez donc ?» Mais à ce moment, un bruit de pas et des éclats de voix retentirent au-dessous d'eux. C'étaient des visiteurs qui montaient et qui allaient les rejoindre. Il fallut se séparer et descendre. Mais le hasard qui leur avait été jusque-là favorable leur était devenu contraire. Le déjeuner venait de finir dans les hôtels et c'était par bandes qui se suivaient que les visiteurs montaient à la tour. Ils n'eurent pas une minute de solitude assurée dans ces escaliers déserts lors de leur ascension et dont les voûtes sonores retentissaient maintenant de cris et de rires. Tout ce qu'ils purent donner à leur amour, ce fut de furtives étreintes bien vite interrompues. Quand Corisandre s'approcha de la voiture, elle sentit les yeux de sa mère posés sur elle et la dévorant. Mais elle tint les siens baissés, incapable de soutenir ses regards et plus incapable encore de leur répondre. Une émotion délicieuse l'avait envahie et elle eût voulu ne pas s'en laisser distraire. Tout bas, elle se répétait « Il m'aime ! Il m'aime ! Il m'aime !» Et quand elle ne prononçait pas ces mots avec ses lèvres, il résonnait dans son cœur qu'ils exaltaient. « Au Schoschberg, » dit Madame de Barizel au cocher, lorsque Roger et Corisandre eurent pris place près d'elle. Et la voiture roula par les rues de la ville, encombrée de gens endimanchés. Les femmes coiffées du bonnet, au fond brodé d'or et d'argent, avec des papillons de ruban noir. Les jeunes filles, leurs cheveux blonds pendant en deux longues tresses entrelacées de rubans. Les hommes, pour la plupart, portant le chapeau à une corne, ou même, malgré la chaleur, le bonnet à poil de martre à fond de velours, surmonté d'une houppe en clinquant. À entendre les observations de Madame de Barizel, c'était à croire qu'elle en avait d'autres soucis en tête que de regarder les gens de Fribourg et de les étudier au point de vue du costume et des mœurs. Corisandre et Roger ne répondaient rien, mais ils paraissaient écouter. En réalité, ils se regardaient et, par de brûlants éclairs, leurs yeux se disaient leur bonheur. « Je t'aime ! Je t'aime !» À un certain moment, dans la montagne, Madame de Barizel, prise d'un accès de pitié pour les chevaux, ce qui n'était cependant pas dans ses habitudes, voulut descendre pour qu'ils pussent monter avec moins de peine la côte qui était rude. Ce fut une joie pour Roger de prendre Corisandre dans ses bras pour l'aider à descendre et de la serrer plus tendrement qu'il n'avait osé le faire jusqu'à ce jour, et ce fut une joie pour lui comme pour elle de marcher côte à côte dans cette montée ombragée par de grands bois sombres. Madame de Barizel était restée en arrière. Tout à coup, elle appela Corisandre qui redescendit tandis que Roger continuait de monter. « Eh bien !» demanda Madame de Barizel à voix basse lorsque sa fille fut à portée de l'entendre. Corisandre, qui connaissait bien sa mère, s'attendait à cette question et elle avait préparé sa réponse. « Il m'a dit qu'il m'aimait » murmura-t-elle. « Enfin, peu importe, maintenant la victoire est à nous. Tu vois si j'avais raison dans mes prévisions et mes combinaisons. Écoute-moi donc jusqu'au bout. « Tant qu'il ne m'aura pas adressé sa demande, je te prie de t'arranger pour ne pas te trouver seule avec lui. Moi, de mon côté, je ferai en sorte que vous n'ayez pas de tête à tête. Ce que je vous ai ménagé était indispensable. Maintenant, il serait nuisible. Il vaut mieux exaspérer le désir du duc et l'entretenir que de le satisfaire. »